à voix nue. Cette semaine, Gérard Courtois rencontre Jean-Pierre Chevènement. Ce soir, mousquetaire de l'Union de la gauche.
Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Nous avons évoqué hier vos années de formation, votre rude expérience algérienne et votre scolarité à l'ENA, où vous rongez votre frein. Et en réalité, pour vous, l'essentiel est ailleurs, puisque c'est le moment, 1964, vous avez 25 ans, où vous décidez de vous engager en politique. Et vous n'y allez pas par quatre chemins, vous prenez rendez-vous avec Guy Mollet, le tout-puissant patron du PS de l'époque, qui s'appelait encore la SFIO, et vous lui proposez vos services. Pourquoi le PS ?
Il faut dire que le paysage politique au retour d'Algérie ne me satisfaisait pas du tout. J'étais sociologiquement de gauche, je ne pouvais pas être autre chose. Fils d'instituteur, j'avais milité à l'UNEF, et j'étais madésiste, surtout à partir de l'âge de 15 ans, j'aurais voulu soutenir Madès France, c'était mon grand homme. Mais ensuite, je suis devenu gaulliste en Algérie, parce que j'ai vu que De Gaulle était le seul capable de trancher le nœud gordien et d'empêcher une guerre civile. Et le personnage de De Gaulle m'impressionnait beaucoup, mais il avait 75 ans. Et par conséquent, il fallait préparer l'après-De Gaulle. Je ne me voyais pas travailler avec les barons du gaullisme. Ça ne me disait rien du tout. J'ajoute que ça aurait fait croutard. J'étais élève de l'ENA. Non, ça n'était pas possible. Donc, à gauche, qu'est-ce qu'il y avait ? Le Parti communiste ? C'était vraiment pas ma tradition. Je vous ai décrit le Haut-Doubs. Communiste, on n'en a jamais vu. Socialiste, c'est déjà l'extrême-gauche. Le Parti socialiste, je le haïssais. C'est lui qui m'avait envoyé dans les djebels. Je me souviens encore de mes parents, les poings serrés, le soir du 6 février 1956, quand Guy Mollet avait reculé devant les tomates. Donc je n'avais même pas l'idée de
Guy
franchir.
Mollet, qui était à l'époque président du Conseil.
Qui était président du Conseil et qui envoyait le contingent en Algérie, 28 mois.
Donc c'était un repoussoir, Guy Mollet. Vous allez voir un repoussoir.
Eh bien, c'est la conséquence d'une analyse logique. Ce qui nous paraissait intéressant, c'était de faire l'Union de la gauche, qui en était à ses tout premiers balbutiements. Il y avait un dialogue idéologique, et nous avons tout de suite vu que ce qu'il fallait faire, c'était recréer un parti socialiste qui, en alliance avec le parti communiste, conquérerait la majorité.
C'était pas le centre de gravité du parti socialiste de l'époque. On qualifiait les communistes de cosaques encore.
Bien entendu, mais néanmoins, il y avait ce dialogue idéologique mené du côté socialiste par Roger Quilliot et Georges Brutel. Guy Mollet, nous sommes allés le voir et une des premières questions qu'ils m'ont posées, c'est comment s'est passé l'entretien que vous avez eu avec Khrouchtchev. À l'époque, l'URSS donnait des signes de, je dirais pas de démocratisation, mais enfin après le...
D'assouplissement.
Et il nous a répondu sur la Yougoslavie, parce qu'il revenait en fait d'un voyage en Yougoslavie. Il avait une description des porcheries industrielles dans la Yougoslavie qui lui assurait que le salariat était maître de l'avenir et que si on faisait notre travail de militant, on pourrait convaincre une majorité de ce que le socialisme était réellement l'avenir. Donc il nous envoyait militer au fond d'une 14e section, dans le 14e arrondissement de Paris, mettre des tracts sous les pare-brises des voitures, faire le boulot ingrat de militants. Donc il nous a pas vraiment pris au sérieux, alors qu'on était venus presque comme des gens prêts à fournir des dossiers sur les...
Vous vouliez régénérer le PS de l'intérieur, en fait.
On voulait régénérer le PS de l'intérieur.
Mais ça l'intéressait pas du tout, Guy Mollet.
Oui, lui, il considérait qu'il fallait que nous fassions nos classes.
Et puis que la doctrine, c'était lui, de toute façon.
Et que la doctrine, c'était lui qui la maîtrisait. Il y avait les démocrates qui étaient des socialistes, c'était le sel de la terre, le parti socialiste et ses FIO. Il y avait les démocrates qui n'étaient pas socialistes, il les appelait centristes, c'était la droite qui n'était pas gaulliste. Il y avait les socialistes qui n'étaient pas démocrates, c'était les communistes. Ben, il faudrait qu'ils attendent encore longtemps pour devenir vraiment démocrates. Puis il y avait les autres, alors qui avaient le pouvoir, qui n'étaient ni démocrates, ni socialistes, qui étaient les gaullistes. C'était l'horreur. Et c'était pas du tout notre vision, parce que nous étions assez gaullistes. en matière de politique étrangère, de défense, d'institutions. Nous voulions mettre en quelque sorte une base de gauche sous les institutions de la Ve République.
Quand vous dites « nous », c'est le petit groupe que vous formez
avec... Alors c'est le tout petit groupe, il y a Gomez et moi au départ.
Alain Gomez donc.
Alain Gomez, qui est devenu ensuite président de Thomson. Nous rencontrons Georges Sarre le jour de notre adhésion, qui avec l'association des postiers socialistes va nous donner les moyens de conquérir la majorité de la Fédération de Paris. Mm-hmm. Didier Motchan, que je rencontre qu'est Branly, et puis quelques élèves de l'ENA ou de Polytechnique assez divers. Nous entrons au Parti Socialiste.
Donc vous vous retrouvez militant dans le 14e.
Ça
dure pas très longtemps, parce que très vite vous créez le CRS, c'est-à-dire le...
Ah ben on le crée presque simultanément, les statuts sont déposés en janvier 66.
Le CRS, c'est-à-dire le
Centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste. Vous voyez que je reste
très ambitieux
à ma vocation de recherche.
Et d'éducation.
Et d'éducation. Hein. Mais nous sommes pas très nombreux. Heureusement, il y a Georges Sarre et les postiers socialistes. Puis nous sommes candidats, Georges et moi, aux élections législatives de 68. Et l'année suivante, nous prenons la Fédération de Paris.
Parlons deux secondes du CRS, parce que ça va être le point d'appui de toute la suite. C'est un laboratoire d'idées dans votre esprit.
C'est ce qu'on appelle un think tank aujourd'hui, ouais. Un laboratoire d'idées. Nous avons pour but de définir un petit peu ce que sera le projet de la gauche. Or, pour nous, le projet de la gauche, c'est le projet de Gaulle, les institutions, l'Europe européenne, la politique étrangère contre les blocs et la politique de défense, la dissuasion.
Vous venez de dire qu'il y avait toute une composante gaulliste, au fond, dans votre dans le travail et dans la réflexion du CRS, mais il y a aussi une composante marxiste. C'est un drôle d'alliage, au fond.
C'est un alliage assez curieux. On peut pas dire que nous étions vraiment marxistes, parce que nous avions lu le livre de Annie Kriegel sur le congrès de Tours, et puis nous étions surtout frottés de austro-marxisme. Nous avions lu le livre de Hilferding sur le capitalisme financier, qui était un peu le maître à penser de Lénine dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Nous avions lu Léon Blum, parce que on nous avait offert ses œuvres complètes. Nous avions rendu visite à sa veuve, qu'on appelait Jeannot, à Jouy-en-Josas, qui nous a fait écouter les discours enregistrés. Ça nous avait un peu rafraîchi, parce qu'on avait entendu le discours par lequel Léon Blum essayait de convaincre les militants qu'il ne fallait pas intervenir en Espagne. Or, pour nous, l'erreur de Léon Blum était de ne pas être intervenu en Espagne. Longtemps après, nous avons compris qu'il ne le pouvait pas, parce que les Britanniques ne le voulaient pas, parce que les radicaux ne le voulaient pas, que par conséquent, il était obligé de tenir compte de tout cela.
En tout cas, vous allez devenir très vite le poil à gratter aussi bien de Guy Mollet, à la SFIO, que plus tard de Mitterrand à la Convention des institutions républicaines.
Dans un premier temps, nous voyons que Mitterrand est un accélérateur du processus que nous avions pensé.
Par sa candidature de
1965. Et un de mes maîtres de conférence qui a été à son cabinet nous met en contact, ou plus exactement, nous met au boulot. Nous faisons des petites interviews par lesquelles le candidat est censé répondre aux soucis des agriculteurs. Alors nous travaillons avec nos dossiers et je suis pas sûr que nous ayons gagné beaucoup de voix à François Mitterrand, mais nous sommes associés à sa campagne. Nous ne le connaîtrons qu'après, au mois de janvier, où il réunit les gens qui l'ont aidé. Donc il nous produit quelques paroles d'encouragement. Enfin, tout ceci nous incite plutôt à rester militants du Parti Socialiste. Nous croyons beaucoup plus à la structure de parti qui embraye sur les couches populaires qu'au petit Cénacle où on parlait de la Convention des institutions républicaines. Mais ils n'étaient pas beaucoup plus nombreux qu'au CRS. Hein.
Un club de notables.
C'était des clubs de notables. Qui me les disaient, ce sont des petits bourgeois, ça n'a aucune réalité.
Un mot sur mai 68. Vis-à-vis de cette tornade qui secoue la France pendant un mois, vous avez des sentiments apparemment assez mitigés ou en tout cas distancés par rapport à ce qui se passe à ce moment-là.
Il faut dire que le CRS s'était fait un petit peu, non pas en opposition, mais clairement nous nous étions distingués de tous ceux qui rêvaient de, du socialisme sous les tropiques ou bien de la révolution culturelle maoïste.
Vous voulez parler de Cuba ?
Qui croyait, je parle de Cuba, je parle de la Chine, qui croyait au rôle des masses paysannes. Nous voulions travailler avec la société française. Donc nous étions sur une ligne socialiste traditionnelle. Au fond, nous pensions que le communisme avait été une erreur d'aiguillage et que le vrai socialisme ne pourrait surgir que de la société française telle qu'elle était composée, avec son abondant salariat, sa classe ouvrière, ses employés, ses ingénieurs, techniciens. Nous pensions qu'il fallait prendre appui, c'était le marxisme officiel du milieu du 19e siècle, il fallait prendre appui sur la réalité sociale de notre temps. Et nous pensions que, avec la politique étrangère du général de Gaulle, une France socialiste entraînerait le reste de l'Europe, et nous avions une grande ambition pour la gauche et pour la France. Nous pensions que pour la gauche, c'était le moyen d'effacer ces erreurs du Front populaire, et même de la période qui va jusqu'à la libération. Tous les socialistes ne choisissent pas la résistance. Hein, il y a Daniel Mayer, et Guy Mollet d'ailleurs. Mais il y a ceux qui, se continuent à accorder leur confiance au maréchal Pétain.
68, au fond, pour vous, l'événement important de 68, c'est la rencontre avec votre épouse, Nisa.
Alors, j'ai rencontré en février, trois mois avant, chez un camarade de SAS, Ringgold, dont la femme était une amie de Nisa. Donc, quand je suis arrivé chez lui, où se tenait notre réunion, j'ai vu dans le reflet d'une glace une jeune fille qui corrigeait sa frange, et... Je n'ai pas encore reconnu ma future épouse, je ne m'en doutais pas. J'ai simplement demandé son numéro de téléphone à mon ami Ringgold.
C'est un début.
C'était un début.
Vous évoquiez le contrôle par le CRS de la Fédération de Paris, ça c'est 69. C'est un premier levier, mais on arrive très vite au congrès d'Épinay, qui est le congrès décisif pour mettre en œuvre la stratégie que vous préconisiez, stratégie d'union de la gauche, de programme commun avec le Parti communiste.
C'est-à-dire qu'après Paris, nous avons pris d'autres fédérations, la Marne, la Savoie, et au congrès d'Épinay, une bonne douzaine, dont celle du territoire de Belfort, où il y a une majorité pour la motion du CRS.
Bref, vous vous retrouvez avec 8%, 8,5% des mandats à l'ouverture du congrès d'Épinay.
Alors c'est une situation en or. Car Mitterrand et ses alliés, Mauroy et Defferre, font 45%.
La direction Mollet sortante.
Et Savary, avec la pointe Poprenne, font 46%.
46.
Et nous faisons la pointe. Et dès le départ, il y a un vote sur les structures, nous imposons la proportionnelle intégrale avec une barre à 5%, c'est-à-dire en dessous des 8,5% que nous pesons. Nous sommes donc la clé à tous les niveaux, au comité directeur, au bureau exécutif. Et pour le vote de la motion, nous imposons notre motion, c'est-à-dire la négociation d'un programme commun avec le Parti communiste pour les élections de 1973. Mitterrand n'ajoute qu'une chose, sur la base d'un programme socialiste préalablement débattu et approuvé par une convention nationale. Mais moi, je ne sais pas encore que c'est moi qu'on va charger de faire ce programme. Donc, nous sommes en très bonne position.
Mais c'est un sacré pari, quand même, parce que Mitterrand, la veille du congrès, n'est pas socialiste. Mauroy et Defferre, ses alliés, Defferre, le patron de la Fédération des Bouches-du-Rhône, Mauroy, le patron de la Fédération du Nord, les deux grosses fédés du Parti socialiste, sont la droite du parti. Vous êtes la gauche. Donc, vous vous alliez avec... si je puis dire, un aventurier, Mitterrand, et deux représentants de la droite socialiste. C'est gonflé comme pari.
Bien, nous avions un projet, nous pensions qu'il attirerait la jeunesse, et effectivement, des dizaines de milliers de gens ont adhéré dans les années qui ont suivi. Le rôle des sections d'entreprise a été important, nous les avions fait inscrire dans les statuts, et Georges Sarre, qui était le secrétaire à l'organisation et aux sections d'entreprise, a fait adhérer des milliers de militants ouvriers qui venaient de la CFDT, ou des cégétistes qui n'étaient pas encartés au Parti communiste, ou des gens de EFO. Georges venait initialement de EFO. Donc, y avait toute une masse de gens très peu formés politiquement, mais qui ont adhéré au Parti socialiste en passant par le CRS. Le CRS était à la mode. Nous étions un lieu d'effervescence et de bouillonnement d'idées, et les anciens se sont sentis même dépassés.
Vous êtes chargé, vous le disiez, du programme socialiste, et puis ensuite du chapitre économique, du programme commun avec les communistes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces deux textes? Qu'est-ce que ça change, au fond, en quoi ça change complètement le paysage de la gauche?
Bien, le Parti communiste pensait que, avec un tel accord, il pourrait plumer la volaille socialiste. Mmh. Donc il voulait l'accord. Et c'était sa thématique depuis presque une dizaine d'années. Les communistes pensaient qu'avec un train supplémentaire de nationalisation, on déplacerait le centre de gravité de la société française. C'était ce qu'ils appelaient la théorie du passage pacifique au socialisme à partir du capitalisme monopoliste d'État.
Mais c'était un peu votre analyse également.
Oui, nous y ajoutions quand même quelque chose de très important, c'était l'idée de l'autogestion, mais qui n'était pas seulement fondée sur le pouvoir des travailleurs dans l'entreprise, qui était également fondée sur l'articulation entre la démocratie dans l'entreprise et la planification. Donc nous avions réfléchi, c'était l'époque où quand même on voyait que le libéralisme n'avait pas dit son dernier mot, on sentait les premiers prodromes du néolibéralisme, mais nous construisions une société qui était évidemment une société mixte, mais où les grandes entreprises, la plupart des grandes entreprises, pas toutes, étaient publiques et pouvaient jouer un rôle de levier, de locomotive pour l'ensemble de l'économie. Donc sur ce sujet de l'autogestion, nous étions en désaccord avec les rocardiens, qui eux croyaient à l'optimum du marché, que les forces du marché, et que de la même manière, les coopératives, les mutuelles, trouveraient spontanément un point d'accord optimal. Donc nous ne pensions pas cela, nous pensions quand même, c'était notre originalité, que le rôle de l'État restait nécessaire pour orienter l'ensemble de l'économie.
Il reste que c'est une période euphorique, au fond, pour vous, pour le Parti Socialiste. 71-73, la dynamique de l'Union de la Gauche marche pleinement, en tout cas en faveur du PS.
Oui, bien sûr. Il y a à ce moment-là un afflux énorme de jeunes militants qui vont remporter succès sur succès. Beaucoup vont se trouver maires en 1977.
Mais déjà députés en 1977.
Mais déjà députés, nous avons presque un peu plus de 100 députés, 102 députés.
Et pour la première fois, davantage que le Parti communiste. Pour la première fois depuis des lustres.
Le Parti communiste a 73 députés, ouais. Et en termes de voix, nous sommes à touche-touche. Le Parti communiste à 22%, le Parti socialiste 21%. Mmh. Et l'année suivante, aux élections législatives partielles, le Parti communiste s'aperçoit que bien loin de plumer la volaille socialiste, il fait les frais de l'alliance. Et par conséquent, ça va être la cause de la suspension du programme commun en 1977.
Vous le disiez précédemment, au fond, cette période des années 70 a été une période de bataille idéologique intense au Parti socialiste.
Alors, c'est une bataille sur plusieurs fronts. D'abord, il y a les vieux de la vieille qui sont attachés aux anciennes définitions, l'atlantisme, etc. Ils sont pas toujours droitiers sur le plan intérieur, parce que j'ai gardé de très bons souvenirs de mes discussions avec Albert Gazier, qui était ministre des Affaires sociales de Guy Mollet. C'était un homme qui était très paternel à notre égard. Donc, il y avait cette vieille SFIO. Et puis, il y avait le PSU qui est passé très bizarrement d'une position très radicale, quand il était tout à fait isolé
à
l'extrême gauche du paysage. Mais quand Rocard est entré au Parti Socialiste, c'est pour s'allier avec Mauroy et avec Pontillon et ce qui était une partie de l'aile droite du Parti Socialiste. Et il a donné un air de modernité à des thèses qui étaient au fond très voisines des thèses néolibérales qui étaient en vogue aux États-Unis. Et la bataille sur l'autogestion n'a pas vraiment fait rage, parce que c'était plutôt un marqueur vis-à-vis du Parti communiste. Ça aurait pu être un vrai débat entre ce qu'on appelait la deuxième gauche, enfin ils se sont appelés eux-mêmes la deuxième gauche pour flétrir la première, et puis nous, mais ce qui nous séparait véritablement, c'était le rôle de l'État, le rôle de la planification, la politique industrielle. Et le fond de l'affaire, en réalité, était que Michel Rocard voulait devenir candidat à la place de François Mitterrand. et que la deuxième gauche, son idéologie, tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui, hein, il y a un peu de blague là-dedans. Hein. Le fond de l'affaire, c'est que Michel Rocard n'a livré qu'une petite bataille idéologique au congrès de Nantes, où il a essayé de distinguer deux gauches, une gauche jacobine contre une gauche girondine, une gauche centralisatrice contre une gauche décentralisatrice. Mais ça, c'était pour les journalistes, qui sont un peu paresseux. Il fallait que leur mette quelque chose sous la plume.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mitterrand refait alliance avec vous en 1979.
Ah, il est bien obligé.
Vous retrouvez à nouveau en position d'arbitre.
Parce qu'il n'a pas la majorité à soi seul.
Et il vous charge à nouveau du projet socialiste.
Il me charge à nouveau du projet parce que...
Qui va être la base du projet présidentiel de 80. Enfin,
il va charger Bérégovoy d'extraire 110 propositions. D'ailleurs, toutes ne seront pas extraites du projet socialiste. Enfin, c'est quand même le texte majeur qui est adopté à la quasi-unanimité par le comité directeur, sauf Delors, qui démissionne du comité directeur. Et Delors n'appartient pas à la deuxième gauche. La deuxième gauche ne livre pas combat, considère qu'il n'y a pas lieu. Donc le projet socialiste passe et il est adopté définitivement au congrès de Créteil, qui en même temps investit François Mitterrand.
Quels étaient vos rapports avec Mitterrand? C'était de l'estime, de l'amitié peut-être, je ne sais pas, de la rivalité
Alors c'était un rapport assez complexe, fluctuant. Au départ, nous ne le connaissions pas du tout, il avait même assez mauvaise presse. Nous le lions à l'affaire de l'Observatoire, nous avons compris assez vite qu'il avait été dupé et que même tout cela se renversait en sa faveur parce que tombé très bas, il avait réussi avec la seule force de son courage et de son initiative à remonter très haut. Le candidat unique de la gauche, 45% des voix au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça lui donnait une stature. Et entrant dans son intimité, nous invitait à déjeuner, nous avons... peut le dire, sympathiser, c'était une sympathie réciproque. Il aimait les auteurs de l'anarchie, il nous trouvait impertinents, et il était très simple.
Mitterrand, le 10 mai 80, est élu président de la République, la gauche accède au pouvoir après 23 ans de purgatoire. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir-là? La victoire d'une stratégie électorale et d'une stratégie politique ou la victoire d'un projet de société?
Ben d'abord, c'est une formidable victoire pour tous les paris successifs que nous avons faits. Parce que nous avons vraiment parié sur ce que nous pourrions faire de la SFIO, sur ce que pourrait devenir Mitterrand et finalement sur notre capacité à gagner une majorité dans le pays. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Mais en même temps, connaissant les choses de l'intérieur, nous sommes aussi un peu angoissés. Angoissés que Mitterrand se laisse circonvenir par des forces qui... vont à l'encontre de ce que nous souhaitons. Donc nous sommes très vigilants. Néanmoins, Mitterrand fait rentrer 4 ministres communistes au gouvernement. Ça ne change pas d'ailleurs les équilibres d'ensemble. Les premiers arbitrages sont conformes à ce que nous souhaitons. Je suis ministre de la Recherche et de la Technologie, abondamment pourvu de crédits et de postes. Et je peux lancer mon colloque sur la recherche et la technologie qui draine... à peu près 40 000 personnes, qui fait remonter 10 000 contributions, qui est un exemple réussi de remobilisation d'une communauté scientifique qui était un peu en désarroi. Donc la loi de programmation fait remonter l'effort de recherche de 1,8 à 2,35% du PIB, et on peut dire que il y aura une décennie dorée pour la recherche française. Et avec ensuite... une loi d'orientation et de programmation qui apporte beaucoup de concepts nouveaux et qui... fait que la France reste encore aujourd'hui un grand pays scientifique.
Et ensuite, vous enchaînez, si je puis dire, avec le ministère de l'Industrie et de la Recherche. Donc, vous élargissez votre périmètre et vous globalisez, au fond, votre stratégie de développement industriel.
Oui, Pierre Dreyfus se retire, il est fatigué. Et par conséquent, Mitterrand m'attribue le ministère de l'Industrie.
On est en 82, là.
On est en 82, juin 82. Et je prends cela au sérieux. La ligne du projet socialiste est clairement une ligne industrialiste, et je réunis les PDG des entreprises nationales, puis j'organise des journées de l'industrie avec des gens du privé. L'idée est de faire en sorte que, en effet, les entreprises nationales soient renflouées par apport de capital, et l'État apporte au capital 5 ou 6 fois ce que les actionnaires privés ont apporté dans les 8 années précédentes. Et puis par ailleurs, une certaine restructuration s'opère. Le téléphone va à Alcatel, les produits bruns et l'électronique de défense va à Thomson, c'est-à-dire Thales aujourd'hui. Donc il y a une espèce de grand mécano industriel pour constituer des champions industriels à l'échelle mondiale. Et je prévois de signer avec les entreprises nationales des contrats de plan, 4 chapitres d'engagement réciproque, le commerce extérieur, l'investissement, la recherche, l'emploi. Ce sont des documents que je charge Gallois de superviser, l'élaboration.
Louis Gallois. Hein,
Louis Gallois, qui est mon directeur de cabinet. Donc les choses se passent bien jusqu'à des journées de politique industrielle où je remarque que Mitterrand ne mentionne pas les efforts pourtant éreintants que fait son ministre de l'Industrie. Ça se passe en novembre. Mais j'ai un allié dans la place, c'est Ribou. Jean Ribou, c'était le patron de Schlumberger, une entreprise du parapétrolier, un ancien déporté, un homme remarquable, à tous égards avec lequel je m'entendais très bien, qui avait été d'accord pour présider les assises de l'industrie que je projetais en juin 83. Mais il se passe quelque chose de bizarre. J'apprends qu'un déjeuner a eu lieu à l'Élysée, avec 6 patrons, hors ma présence, avec par contre celle d'un certain nombre de conseillers, dont Jacques Attali et Pierre Dreyfus, et que le but de l'exercice est de flétrir ma gestion. On invente dans ce déjeuner l'idée que j'aurais recensé les machines électroniques des différentes entreprises. Tout ça n'avait aucune réalité.
Et ça se traduit
par une remontrance en Conseil des ministres à l'égard des méthodes de bureaucratie tatillonne.
De dirigisme tatillon.
De bureaucratie tatillonne. Voyant la tête que je fais, Mitterrand me dit « ce n'est pas pour vous ». Il me le dit « ce n'est pas pour vous ». Je vise l'ensemble des ministres. Mais Attali, sur le perron de l'Élysée, dit que le président a flétri les excès de bureaucratie tatillonne à l'égard des entreprises nationales. Qui cela peut-il viser, sinon moi, qui suis le ministre de l'Industrie ?
Et ni une ni deux ?
Ni une ni deux, je fais ma lettre de démission. Je dis à Mitterrand « vous ne pouvez pas me cisailler ». Les mollets, enfin vous pouvez pas m'enlever le peu d'autorité dont je dispose.
Mais au fond il y a une sorte de coïncidence étonnante entre votre démission fin mars et les grands choix effectivement que Mitterrand, de politique économique que Mitterrand va faire à ce moment-là, parce que au-delà de la réaction, si je puis dire, d'amour propre après la remontrance du chef de l'État en Conseil des ministres, ce qui est en jeu, en fait, c'est la politique économique du gouvernement socialiste depuis 2 ans, avec laquelle vous êtes de moins en moins en accord, en tout cas sur laquelle vous essayez de peser, et sur laquelle, au bout du compte, vous n'arriverez pas à peser. Mais on y reviendra demain, si vous le voulez bien.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Gérard Courtois avec Jean-Pierre Chevènement. À voix nue, réalisation Marie Placet, prise de son Frédéric Kérou, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.